Première question, premier thème qu'on a envie d'aborder avec vous, parce que c'est tout frais dans l'actualité, c'est votre engagement européen et qui conduit aujourd'hui à votre élection comme membre du bureau de l'Assemblée des parlementaires franco-allemands. Qu'est-ce que vous entendez par ce couple franco-allemand? Comment vous le considérez? Comment vous avez envie de vous investir dans cette nouvelle mission, dans cette nouvelle fonction?
Oui, alors c'est pas un scoop quand même. Je suis à l'Assemblée des Français, l'Assemblée parlementaire franco-allemande depuis son origine. Comme les postes sont répartis, je n'étais pas au bureau, mais moi je représente les Français qui sont en Allemagne, hein, puisque c'est la grosse partie de ma circonscription, et donc je représente le franco-allemand général, je dirais pas uniquement le franco-allemand transfrontalier. Comme je dis parfois, parmi mes électeurs, il y a beaucoup de gens, une grande majorité de gens ne sont ni français ni allemands, ils sont franco-allemands, parfois depuis plusieurs générations. Donc c'est ça que j'essaye d'amener depuis le début à ce que je fais dans le franco-allemand, faire un franco-allemand qui soit visible, qui soit quotidien, qui soit dans la profondeur, pas uniquement dans les rapports transfrontaliers ou dans les institutions, mais également au quotidien. J'avais, par exemple, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de formations citoyennes, j'aime beaucoup faire des réunions publiques avec les citoyens, de faire ce que j'appelle des séminaires sur des sujets politiques, où je m'expose, hein, où les gens ont le droit aussi de critiquer, mais où c'est surtout de la formation. Et j'avais fait, en année numéro 2, la deuxième saison, nous avions fait sur les institutions européennes, et nous le faisions systématiquement avec un élu local allemand et ses électeurs à lui, quoi, dans la même salle, en double langue. Voilà, c'était symbolique de ce que j'essaye de faire moi dans le franco-allemand. Ensuite, évidemment, d'arriver au bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, ça va me donner une position qui va être encore plus opérationnel à ce niveau-là, puisque dans le règlement de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, quand on est au bureau, on a un accès beaucoup plus rapide aux ordres du jour. En particulier, on a quand même que 3 ou 4 réunions, peut-être un peu plus si on compte les groupes de travail, donc il faut que les ordres du jour soient préparés, quoi. Et ça, c'est important d'être au bureau parce que ça permet de travailler là-dessus et de faire monter des thèmes que moi je vois et que parfois je suis peut-être le seul du côté français à voir, puisque voilà, c'est les Français de Berlin, les Français de Nuremberg, les Français de Bonn, les Français de Munich. Et donc c'est pour moi important d'être au bureau. Voilà, en décision immédiate, je vais profiter des premières réunions de bureau pour que pour relancer la circulation de l'information sur l'Assemblée franco-allemande, déjà au sein de l'Assemblée. Aujourd'hui, on est un peu rigide parce que c'est compliqué, hein, sur le plan administratif, hein, d'avoir créé cette Assemblée. On commence à peine à sortir des interrogations, parfois il y a des choses du Parlement, de l'Assemblée nationale, que les gens du Bundestag voient comme un œuf qui rencontre un lapin qui rencontre un œuf. Des fois, c'est le contraire. Nous, il y a des choses qu'on comprend pas. Donc, tout le règlement à mettre en place a été un peu long. Et je voudrais maintenant qu'on passe à une deuxième étape où on communique beaucoup plus et beaucoup plus horizontalement et beaucoup plus systématiquement entre nous. Donc ça, voilà, ça va être quelque chose que je vais pouvoir proposer au bureau parce que je pense que les gens du bureau ne l'ont peut-être pas forcément senti aussi de manière aussi sur ma peau, comme on dit en polonais, hein, que moi.
On va donc aborder le second thème de cette interview, c'est la rentrée. C'est une rentrée particulière en raison de la Covid-19. Il y a des fermetures de classes, hein, notamment les terminales à Bruxelles. Il y a aussi des élèves qui sont cloisonnés dans des cellules en plexiglas, c'est le cas à Porto. Il y a des parents qui ont monté un peu la fronde. Comment vous analysez l'attitude et les déclarations de l'AEFE et plus particulièrement également du gouvernement sur ça? Vous êtes satisfaite de cette rentrée ou vous avez des observations et des regrets?
Alors, sur la rentrée, plutôt rassuré. Voilà. Tous les lycées que j'ai pu voir, y compris les cas dont vous parlez, je crois qu'on est plutôt, et tout le monde s'accorde à dire, qu'on est plutôt à la fois dans la dans la reprise pédagogique et à la fois dans la relation avec les parents, qui est pour moi fondamentale. Hein. L'AEFE, c'est un réseau de parents d'abord. Hein. C'est eux qui financent le plus, c'est eux qui sont le plus au charbon. C'est fondamental qu'il y ait une osmose entre la politique publique et les parents. Quoi. On peut pas. Cette politique publique sera incapable à mettre en place si ce que pense la nation et le gouvernement prend de front ce que souhaitent les parents. Donc ça, c'est très important. Donc tant au niveau pédagogique qu'au niveau relation avec les parents, je dirais que c'est mieux que ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques semaines.
Alors justement, revenir sur vos propos, vous disiez il y a quelques minutes, vous parliez de choc économique sur les familles. Je vous parlais de la fronde également et du dernier trimestre et des cotisations du dernier trimestre de l'année dernière qui avaient été un petit peu discutées. Et vous nous parlez également d'aide, mais directement sur les établissements. Pour vous, la solution, c'est ça, c'est donner plus de moyens aux établissements pour qu'ils puissent continuer d'enseigner dans ce cadre compliqué qu'est la Covid-19, plutôt que d'aider directement les familles qui...
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a essayé d'aider les familles, et ça s'est pas trop mal passé, mais c'est difficile. Et à mon avis, si on reste sur cette aide, sur ce principe de l'aide individuelle, on n'utilisera pas l'ensemble de l'argent, c'est tout simple. Parce que c'est je ne sais pas quelle est votre expérience à vous, mais vous savez, il y a 139 pays, 522 lycées, il y a 522 situations différentes. Il y a des pays où les familles n'osent pas demander, parce que c'est mal vu, parce qu'on ne va pas demander de l'aide. Il y a des pays où on n'a pas le droit. Voilà, on n'a pas le droit un État étranger ne peut pas subventionner un national. Ça ne se fait pas, c'est pas comme ça. Donc il faut trouver des trucs. Il y a des tas d'endroits où les caisses de solidarité avaient déjà payé. Et si jamais on ne va pas récupérer ça, ça voudrait dire que les associations de gestion les plus vertueuses qui ont réagi très vite, qui n'ont pas attendu que l'État vienne les secourir et qui se sont débrouillées pour éviter que les plus fragiles disparaissent, ceux-là, ils seraient pas aidés parce que nous on a réagi un peu plus tard, donc il faut aussi qu'on récupère ça. Donc on a des situations extrêmement diverses.
L'autre thème qu'on voulait aborder avec vous, monsieur le député, c'est la fiscalité. La discussion de la loi de finances pour 2021 arrive. Il y a un rapport qui est tombé cet été, et pour le coup, on n'a pas d'indication sur le choix du gouvernement sur la fiscalité des Français de l'étranger. Il y a le moratoire pour la fin de l'année. Il y a la commission fiscalité de l'Assemblée nationale des Français de l'étranger qui s'oppose aux ajustements proposés par Bercy. Quelle est votre proposition, votre choix à vous? On reste à 20, on passe à 30, on s'aligne sur le système des Français résidant au pays. Qu'est-ce qu'on fait?
Je vais être précis. D'abord, je rappelle les principes, parce que cette réforme s'est perdue un peu dans les sables et les buzz et les gens qui lisent les articles en 10 pages au lieu de lire les tableaux de 40 lignes. Donc ça devient difficile parfois. Donc moi, je maintiens la position que j'ai donnée dès le début, même avant le rapport GNT. Hein. J'ai toujours dit la fiscalité du non-résident doit être d'abord une fiscalité conforme aux accords bilatéraux. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas en sortir de ça. Donc ça, c'est pour résister à tous ceux qui disaient que... tous ceux qui taxaient, nous, les Français à l'étranger, d'évader fiscaux, parce qu'ils oubliaient qu'on payait dans nos pays. Donc ça, c'était ma première position, de dire voilà. Mais par contre, sur mes revenus imposés en France, parce que la Convention prévoit qu'ils soient imposés en France, il n'y a aucune raison que je sois... que j'ai une fiscalité complètement différente dans ses calculs, dans ses assiettes, dans ses taux, que le résident qui gagnerait la même chose que moi. Alors le problème, pourquoi historiquement on n'en était pas là, c'est parce que la fiscalité des non-résidents était très compliquée à contrôler. C'était ça, moi je comprends ça. Donc on disait, et on a inventé cette notion d'impôt libératoire. Voilà. Or, l'impôt libératoire, quand on était une majorité de camps, quand la majorité des Français qui étaient à l'étranger et qui avaient des revenus français, c'était des expats, en fait, parce qu'en fait, on était dans une sociologie, il y a 20 ans, il y a 30 ans, où ces cas-là, c'était des expats, quoi. C'était des gens qui étaient payés par la France alors qu'ils étaient à l'étranger. Et c'est pour ça qu'ils s'étaient imposés en France. Eh bien, voilà, on était sur des choses qui passaient bien et qui permettaient à tout le monde d'avoir quelque chose de simple et de pas être obligé d'envoyer des inspecteurs du fisc en Érythrée ou en Argentine. Mais ce qui se passe, et pourquoi moi je réagissais dès ma campagne, c'est que la sociologie des Français à l'étranger et des non-résidents a complètement changé. Aujourd'hui, je vous prends cet exemple, c'est un exemple que j'ai très souvent cité pendant les débats, les longs débats sur ce sujet. Je connais un jeune qui est parti dans un pays des Balkans parce qu'il avait envie de partir, parce qu'il avait été plein d'aventures, il avait envie de créer sa vie, de voir comment il pouvait vivre là-bas. Et c'était un projet de vie. Très bien, il part. Ses parents lui disent « Écoute, c'est une bonne idée. Pour te couvrir, on met l'appartement qu'on loue, qui ramène 650 euros parce qu'ils avaient un petit appart qui était en location, on le met à ton nom et ça sera ton revenu pour te sécuriser. » Voilà. Et ben, il est parti. Il n'avait que ça pour vivre pendant 2 ans et demi. Et il a payé 20%. Il avait 650 euros pour vivre et il a payé 20%. Donc, on arrivait à des sociologies où des gens qui s'installent avec leur famille, et bon, pourquoi si l'époux, le conjoint ou la conjointe ne travaille pas, pourquoi ne pas non seulement les parts, mais en plus les parties, les autres avantages. C'est un peu injuste, quoi. Donc l'idée, c'était de dire, plutôt que de laissons le libératoire de temps en temps quand les gens préfèrent, et voilà, mais permettons aux gens de sortir du libératoire, évidemment à condition qu'ils déclarent mondial, mais permettons aux gens de revenir à des choses plus simples. Alors après, c'est parti dans les arcanes techniques, et il y a eu effectivement un gros effet de bord sur l'idée qui paraît, c'est tout simple, hein, quand je l'exprime comme ça, c'est tout simple, il n'y a qu'à faire ça. Mais après, vous avez des situations transfrontalières, vous avez des situations de rapport entre le revenu français et le revenu mondial qui sont différentes, hein, qui sont complètement différentes. Donc voilà, vous avez en plus il y a des pays où il n'y a pas de convention, où les conventions sont différentes. Donc il y a eu des effets de bord. Les plus gros effets de bord étaient en fait sur les transfrontaliers, évidemment, sur des transfrontaliers, donc des situations, par exemple. On a tout vu, moi j'ai fait un travail, donc j'ai une cinquantaine de situations qui étaient les situations problématiques que j'ai voulu étudier en détail. Bon, c'est vrai qu'un revenu, il y a des revenus entre transfrontaliers où oui, je travaille là, mais j'habite là, mais il faut que je suis obligé d'habiter là parce que sinon je perds la garde. Des trucs, évidemment, c'est très gros effet de bord. Donc, je crois que la solution maintenant vers laquelle on va arriver, qui est de dire ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de revenir à quelque chose de assez simple en jouant un sur le libératoire, deux sur des avantages qui pourraient permettre le libératoire qui permet d'éviter d'avoir des gens qui bêtement alors que ça n'a aucun ou c'est pas beaucoup plus juste paye non seulement 3 fois plus que ce qu'il paye aujourd'hui, mais 2 fois plus que ce que paye le résident à sa place. Donc réfléchir à des plafonds de cet ordre-là, et puis mettre des avantages qui nous paraissent nous très logiques. Voilà, il y en a un auquel moi je suis très attaché. Je crois qu'il faudrait qu'on définisse la résidence de repli en plus de la résidence. Il faudrait que le droit ou le règlement, ce sera plutôt le règlement, définisse la résidence de repli, c'est-à-dire il y a en France des résidences principales, il y a en France des résidences secondaires, il y a des résidences de repli quand on est inscrit sur une liste électorale, sur une liste consulaire, donc on habite à l'étranger, on a une résidence de repli qui n'est pas une résidence secondaire.
Le sujet de la résidence de repli, ça s'appliquerait uniquement aux avantages fiscaux ou à tout, aux avantages sociaux également ?
Ça serait une définition nouvelle. Après, on dirait, et on pourrait dire, la résidence de repli, dans les impôts locaux, elle est comme ça. Dans les impôts, dans les voilà, ça pourrait par exemple sortir des bourses, bêtement. Hein, ce serait pas idiot ça, parce qu'il y a des gens qui perdent. Il y a des gamins qui sortent du lycée français qu'on peut plus mettre au lycée français simplement parce que grand-père est mort. Vous connaissez cette histoire, je suppose. Mmh. Donc le grand-père est, on est boursier, donc on va au lycée français de là où on est. Le grand-père meurt, il laisse une maison qui est en indivis à 25 cousins, mais qui a un peu de valeur. Donc les 25 cousins, avant qu'ils se mettent d'accord, ça va prendre 3 ans. Mais moi, dans mon patrimoine, eh ben, j'ai inscrit 200 000 euros. J'en ferai jamais rien, ça ne me sert à rien, mais je sors des bourses. Bon, ben on pourrait dire déjà, la maison de repli, elle ne compte pas dans le patrimoine des bourses. On pourrait réfléchir à cette histoire de patrimoine des bourses parce que ça pose d'autres problèmes. Mais voilà, et puis on pourrait faire aussi des avantages sociaux. Moi, c'est la notion je crois qu'il faut mettre les choses dans le bon sens. Il faut commencer par définir une maison, cette notion-là, et puis après, il faudra voir où ça s'applique, et puis ça s'appliquera dans pas mal de règlements, ça pourrait s'appliquer dans d'autres règlements. Mais effectivement, c'est pas uniquement fiscal, ça serait une définition qui s'appliquerait dans tous les champs où on aurait envie de l'appliquer.
Et donc, dernière question, sont les élections consulaires. Alors, elles ont été repoussées en 2021, enfin en fait, elles sont annulées, de nouvelles sont prévues. Il y a la question de la sécurité sanitaire, il y a la problématique sur les lieux où il y a beaucoup d'expats, Bruxelles, on pense également au Royaume-Uni, à la Suisse. C'est compliqué d'organiser des bureaux de vote avec les conditions sanitaires respectées sur les consulats ou les ambassades. Et puis, il y a la faillite du sous-traitant qui devait proposer un vote électronique. Est-ce que on ne pourrait pas craindre une nouvelle annulation de ces élections consulaires pour le printemps prochain ?
Écoutez, on peut toujours craindre des choses et puis être rassuré, mais je ne vais pas faire de sentiments. Alors, dans l'ordre, situation sanitaire, rien n'est prévisible, mais je pense quand même qu'une chose est sûre, c'est que fin mai 2021, on aura été capable d'anticiper plus que maintenant. C'est-à-dire, on a une date, c'est pour ça que nous, on souhaitait absolument, au moment de cette loi, je me suis opposé, moi, on a fini par gagner. Je ne voulais pas qu'on dise qu'elle serait organisée au plus tard en mai. Je voulais qu'on dise, qu'on donne une date. Parce que, pourquoi c'est important ? Dans le cadre de la prévision, vous comprenez, aujourd'hui, sûr, on ne peut pas savoir ce qui va se passer en Australie en mai ou je ne sais pas où en mai. Mais plus on va se rapprocher, plus on va avoir de capacité, d'abord de voir l'évolution de la maladie et d'anticiper parce qu'on a la date clairement en jeu. Donc on va être capable d'anticiper un certain nombre de cas de manière beaucoup plus, beaucoup moins. Pagailleuse que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc ça, c'est une première chose. Après, la faillite du prestataire, je veux dire, c'est pas parce que Volkswagen avait fait une bêtise que toutes les Volkswagen se sont arrêtées. Hein, quand il a eu, voilà. Donc, je ne connais pas ce contrat, c'est pas mon job. De ce que je sais, de ce qu'on a essayé de vérifier, la faillite du prestataire ne veut pas dire la faillite du système. Donc voilà.
Vous croyez au fait que l'entreprise soit reprise et que du coup le vote électronique puisse être proposé dans de bonnes conditions ?
Mais le système est déjà vendu. Le système a déjà été testé. Donc on est sur des problèmes de fin de contrat. Alors, on est sur des problèmes de garantie, on est sur des problèmes de maintenance, etc. Donc ce n'est pas du tout rien, comme vous dites. Ce système, il a été testé. Moi, je l'ai utilisé. J'ai fait partie des testeurs. Voilà. Donc, c'est pas. Voilà. Et les sociétés qui font faillite, ça arrive. Les contrats, généralement, surtout si 80% du contrat a déjà été délivré, c'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc, non. Le système marche. Il a été testé. Il est en place. On n'a pas forcément. C'est pas comme si on repartait à zéro là. Il n'est pas question de repartir à zéro. Voilà, il y a un incident, c'est un accident, mais c'est un accident commercial comme j'en ai connu beaucoup dans ma vie. Et on a encore le temps à 8 mois pour dire voilà, et ben, le fournisseur, il ne peut plus nous fournir ça, qui c'est qui pourrait nous fournir, etc. Mais le système, le corps du système, plus la vérification, plus les vérifications de sécurité sont faites. Je voudrais. Voilà, on peut jouer à se faire peur et dire que puisqu'il s'en va, on va nous le voler, on va nous dire que son repreneur a repris les licences, je sais pas quoi, mais on n'est pas dans l'hypothèse où on repart à zéro et on n'a plus rien. Voilà. Quelle que soit la décision qui se passera pour cette entreprise en faillite.
Merci pour ces précisions, Frédéric Petit. Merci de nous avoir accordé cette interview pour lesfrançais.presse. Et on vous souhaite donc une bonne soirée au Caire, puisque vous étiez depuis le Caire.
Je vous remercie. Au revoir à tous. À bientôt.